Bienvenue dans Blabla Yoga, le podcast. Je suis Sandrine Martin, enseignante de yoga et entrepreneur. Ce podcast a pour mission de vous aider à rester inspiré afin d'enseigner le yoga avec justesse et joie. Ainsi, je partage mon expérience et mes réflexions et je réponds à vos questions en visitant des sujets comme le yoga, l'enseignement, l'entrepreneuriat ou la spiritualité. J'espère que ces moments passés ensemble vous enchanteront. Bonjour, j'espère que au moment où vous écoutez cet épisode, vous vous sentez bien, que vous vous sentez inspiré par ce que vous lisez, vous voyez, vous entendez et que vous trouvez des ressources à la fois pour votre vie et dans votre pratique. Aujourd'hui, je voulais aborder le yoga fonctionnel parce que je parle beaucoup de yoga fonctionnel, que ce soit dans mes enseignements, dans certains articles ou encore dans certains podcasts, cela a été évoqué et je n'ai pas pris le temps jusque-là d'expliquer ce qu'était que le yoga fonctionnel. Alors je vous propose aujourd'hui de visiter un petit peu cet aspect, cette approche du yoga fonctionnel. Alors déjà, c'est à la base de ma pratique et de mon enseignement. C'est vraiment une manière de faire sur laquelle je m'appuie en permanence. Et ma pratique depuis le départ est basée sur cette approche fonctionnelle. Alors, parce que j'ai rencontré mes enseignants qui travaillaient sur cet aspect-là déjà dès le départ, j'ai choisi aussi d'aller dans cette direction parce que venant du monde de la danse où l'esthétique avait une grande part, j'avais envie d'être dans autre chose que de l'esthétique et que ayant une certaine hypersensibilité au mouvement, à l'intelligence du mouvement, j'avais aussi besoin d'être dans ces sensations corporelles, le ressenti, l'expérience plutôt que l'approche esthétique d'une posture. Donc il y avait vraiment cette envie d'aller dans cette direction-là et c'est vrai que très rapidement, j'ai été séduite par le travail de Paul Grillet en yin yoga et cela m'a vraiment amenée vers cette approche du yoga fonctionnel. Donc, c'est vraiment dès le départ, hein, dans ma pratique de yoga, que je suis allée vers cette approche. Alors, qu'est-ce que c'est que le yoga fonctionnel? Avant d'aller dans la définition, je vais commencer par ce que ce n'est pas. Ce n'est pas un nouveau yoga qui a émergé il y a quelques années. C'est une façon de regarder la pratique et d'approcher la pratique. Ce n'est pas non plus un nouveau style, quoique certaines personnes le considèrent comme tel parce qu'on s'éloigne de la façon dont est enseigné le yoga aujourd'hui en général. C'est un yoga qui est extrêmement basé sur l'alignement et ici avec le yoga fonctionnel, on s'éloigne un petit peu des bases de l'alignement et parfois certaines le considèrent du coup comme étant une autre forme de pratique. Et le yoga fonctionnel n'est ni une meilleure pratique ni une moins bonne pratique, c'est juste une pratique qui est différente et elle va vous conquérir, vous parler ou au contraire vous allez vous sentir perdu dans ce type de yoga. Et ce n'est pas du tout un souci, l'essentiel c'est vraiment de trouver la pratique dans laquelle vous vous sentez le mieux, là où vous allez avoir le plus d'indications qui vous parlent et là où vous allez sentir aussi que vous vibrez plus. C'est ça qui est le plus important, plutôt que de savoir si on est fait pour un style ou pour un autre, une manière de travailler plutôt qu'une autre, c'est vraiment de trouver l'approche ou le style ou l'enseignant qui va vous permettre d'expérimenter, d'explorer, de trouver ce qui vous convient le mieux pendant une période, pendant toute la vie, ça va peut-être changer au long de votre vie. Donc, ne vous sentez pas freiné, différent parce que vous avez envie d'expérimenter le yoga d'une autre façon, mais c'est très bien justement, allez-y, profitez-en pour explorer des façons de faire variées. Alors, qu'est-ce que le yoga fonctionnel? C'est avant tout une approche. C'est une approche qui va mettre au cœur de la pratique les effets ou les bénéfices avant de mettre au cœur le placement de la posture. C'est une pratique qui va finalement prendre en compte plus le fond que la forme. On va s'attarder sur ce qui est senti, ce qui est observé, ce qui est validé, plutôt que sur une position stricte du corps, comme par exemple le placement des pieds dans certaines postures, le placement des bras avec un alignement qui va être vraiment, je vais utiliser le mot strict, mais c'est pas juste un alignement qui va être précis. Je vais plutôt utiliser ce mot de précis que de strict. Ce sera beaucoup plus adapté. Et c'est un yoga finalement qui va permettre d'adapter le yoga à son corps et non de chercher à faire rentrer le corps dans une pratique spécifique. Ce qui fait que si vous manquez de mobilité, d'amplitude, si vous avez des blessures qui vous empêchent de faire certaines postures, vous allez pouvoir aussi regarder la pratique avec un autre regard et peut-être trouver des postures qui seront plus justes pour votre corps avec votre blessure du moment, avec vos restrictions, avec vos difficultés du moment et de faire en sorte que la pratique ne soit plus finalement freinée par les défis que vous rencontrez, mais au contraire de jouer avec ces défis pour trouver la pratique qui vous ressemble le plus. Ça laisse aussi de la place à l'expérimentation, d'aller chercher ce qui correspond le mieux à son propre corps sans forcément rentrer dans un cadre. Finalement, le cadre, c'est la pratique, c'est pas la posture avec un positionnement spécifique, mais ce qui se passe à l'intérieur de cette posture. Qu'est-ce qui se passe quand je place mes mains différemment? Qu'est-ce qui se passe quand je change de cadre? Qu'est-ce qui se passe quand je change d'enseignant et que les indications, les consignes ne sont pas les mêmes? Est-ce que cela me convient toujours ou pas? Et qu'est-ce que je vais préférer faire? Donc c'est ça, laisser la place à l'expérience. C'est aussi une pratique qui va être beaucoup plus inclusive parce que l'on va permettre à chacun de pratiquer en fonction de son corps. Donc quand on a l'habitude de prendre un cours où le yoga fonctionnel est au cœur de la pratique, eh bien vous allez peut-être regarder un petit peu ce qui se passe dans la pratique avec chaque élève et vous allez peut-être vous dire qu'il y a une forme d'anarchie dans le cours parce que chacun finalement va changer un petit peu, adapter la posture, la pratique à son propre corps. Et même certains, quand ils ont une certaine habitude, vont carrément choisir des postures qui sont différentes de celles qui est proposée par l'enseignant parce que tout simplement c'est la posture qui va être la plus juste à ce moment-là, qui va mieux répondre aux demandes de l'enseignant même si elle est différente de ce que les autres font. Et ça, on reviendra un petit peu plus tard dans le cours de cet épisode pour expliquer un petit peu pourquoi on va choisir une autre posture plutôt que celle qui est proposée parce qu'elle correspond le mieux. Aussi, le yoga fonctionnel ne propose pas un alignement universel, un alignement qui va être le même pour tous, pour toute la classe ou pour une classe après l'autre. L'alignement universel est impossible parce que nous sommes tous différents les uns des autres. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous invite à écouter ou à réécouter le podcast numéro 12 qui s'intitule « Nous sommes tous différents » parce que vous allez retrouver ici des indications qui vous permettront aussi de peut-être mieux comprendre ou mieux revisiter cette approche fonctionnelle. Donc il n'existe pas un alignement universel qui va être le même pour tous. Par exemple, le fait de s'installer dans la position à quatre pattes en plaçant absolument les mains ou les poignets sous les épaules. Alors déjà, il n'y a pas forcément d'alignement universel parce que vous avez des styles différents et les styles différents ne donnent pas déjà les mêmes indications pour faire la posture. Donc si je reviens sur la position 4 pattes, la position 4 pattes pour certaines personnes, elle sera très stable, très solide en ayant les poignets ou les mains sous les épaules. Pour d'autres, ce sera beaucoup plus stable, beaucoup plus agile de placer les mains un petit peu plus en avant par rapport aux épaules. Il y aura moins de flexion du poignet et du coup ce sera beaucoup plus confortable au niveau de la main, au niveau du poignet et par conséquent du coude, de l'épaule et des cervicales. Pour d'autres personnes, ça va être d'écarter un petit peu plus les mains sur les côtés et on quitte un petit peu cet alignement des épaules par rapport aux mains. Et cela permet d'avoir encore une fois une meilleure stabilité, un meilleur ancrage dans la posture. D'autres peut-être, ça va être les mains qui vont être positionnées différemment. Au lieu d'avoir les mains qui sont parallèles avec par exemple les doigts qui regardent vers l'avant du tapis, les mains vont changer un petit peu d'orientation et les doigts vont regarder plutôt vers l'extérieur du tapis ou encore vers l'intérieur du tapis. Donc, si ici vous vous posez la question, vous pouvez être dans cette expérience, vous installer dans un quatre pattes et vous dire qu'est-ce qui est le plus solide pour moi, là où j'ai le plus d'ancrage. Est-ce que c'est en gardant effectivement les mains parallèles? Est-ce que c'est en les écartant? C'est en avançant les mains, en les reculant, en les rapprochant ou en laissant un petit peu tourner les paumes de main? Alors, je parle des paumes de main, mais ici, c'est pas tant une histoire de main, mais c'est plutôt une histoire aussi d'épaule, d'orientation de coude, d'agencement, si je peux utiliser ce mot-là, des différentes articulations et la coordination entre les différentes articulations pour s'installer dans la posture. Donc, quelle est la meilleure position pour vous dans ce quatre pattes? Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir stable? Stable, c'est quoi? C'est quand quelqu'un vient se poser à côté de vous, vous pousse un petit peu, par exemple, au niveau du bassin ou au niveau de l'épaule et vous tenez votre posture parce que vous êtes stable et ancré. Si c'est pas le cas parce que vous avez un peu mal au poignet ou vous avez mal un petit peu au cervical, vous allez tout de suite vous tendre et vous aurez du mal à rester stable et ancré dans la posture si on vous pousse ou si on vient vous chatouiller, par exemple, ou si on vient vous parler. Donc, c'est un bon indicateur pour savoir si la posture est stable ou pas. Ainsi, quand on a embrassé le fait que chacun est différent, que l'alignement va être différent pour chaque personne, eh bien, on va se retrouver dans cette pratique qui va être inclusive, où chacun va pouvoir évoluer au sein d'un groupe, au sein d'un cours, dans sa propre pratique personnelle, pour trouver les alignements propres à chacun. Parce que mon alignement ne va peut-être pas être le vôtre et ne sera certainement pas celui de la personne encore à côté. Donc c'est important aussi de pouvoir se dire que en étant tous différents, on va pouvoir pratiquer ensemble avec des indications qui vont être légèrement différentes, mais pour maintenir une certaine forme de stabilité, d'ancrage, maintenir la respiration par exemple et bien d'autres choses. Alors comment ça se passe un yoga fonctionnel ? On va expérimenter un petit peu tout ça en voyageant avec deux postures. La posture du cobra. Donc la posture du cobra, elle se fait en étant allongée sur le ventre et on va soulever le haut du buste. On va voir aussi après les différentes variations. Et ensuite, Vrikshasana, la posture de l'arbre. La posture de l'arbre, il y a un pied en appui, l'autre jambe est fléchie, le pied posé sur la cuisse d'appui. Et ensuite, le buste est bien redressé. Donc, c'est une posture d'équilibre. Il y a plein de variations au niveau des bras, mais je ne vais pas rentrer dans cette indication des bras là, maintenant. J'y reviendrai peut-être après. Donc, comment on fait quand on pratique un yoga fonctionnel? Revenons sur la posture du cobra. La première chose à prendre en compte, c'est les objectifs de la posture ou encore les bénéfices, parce qu'on n'aime pas forcément parler d'objectif. Qui dit objectif dit résultat à atteindre. Donc, quels sont les bénéfices de la posture ou encore à quoi sert cette posture? Et dans chaque posture, les bénéfices sont multiples. Donc, par exemple, ici sur le cobra, quand vous êtes allongé sur le ventre, que vous suspendez le haut de votre corps, que les mains soient posées sur le sol ou les bras soient dans le prolongement du buste au niveau de la tête, que les mains soient derrière, accrochées, entrelacées au niveau du bassin ou encore les bras le long du corps, les mains posées sur le sol, eh bien, vous avez plusieurs choses qui se passent. Il peut y avoir déjà une activation de tous les muscles érecteurs de la colonne vertébrale. Donc, ça permet de dynamiser la colonne vertébrale, de tous ces muscles qui nous permettront ensuite de nous redresser, de nous sentir à la verticale quand on est debout, quand on est assis ou face à un ordinateur, par exemple. Donc, la première chose, c'est la musculature de toute la région du dos avec tous les muscles le long de la colonne vertébrale. Ensuite, le fait d'avoir redressé la cage thoracique, d'avoir soulevé la cage thoracique, ça va exercer une pression naturelle du sol contre les viscères. Et cela permet à chaque respiration d'augmenter le massage viscéral et de faciliter la circulation des différents éléments qui sont à l'intérieur du côlon, par exemple, donc favoriser la digestion, favoriser l'élimination des selles par exemple, ou encore favoriser la respiration diaphragmatique. Donc vous avez déjà deux options possibles pour cette posture du cobra. Si vous levez en plus les jambes, donc vous allez un petit peu plus loin dans une forme de sauterelle en soulevant les jambes, eh bien vous avez une activation des muscles fessiers, des ischio-jambiers pour pouvoir soutenir les jambes, et du coup ça va donner un travail d'activation musculaire de toute la chaîne musculaire postérieure. Et en même temps, en contrebalançant, il va y avoir comme un léger étirement de toute la chaîne musculaire antérieure, donc toute la chaîne musculaire qui est orientée vers le sol ou qui est à l'avant du corps. Ça, c'est une troisième option. Il y a aussi une autre option qui va être de focaliser son attention sur la région sacro-lombaire et de sentir peut-être une compression ici qui va être intéressante dans le bas du dos parce que ça va finalement être la contre-posture à la position que l'on a au quotidien, qui est plutôt une flexion avant quand on est assis face à son ordinateur ou dans un canapé ou encore dans une voiture. On a plutôt tendance à avoir une flexion avant avec le pubis qui se rapproche un peu des côtes. Et du coup, c'est une manière aussi de faire une contre-posture par rapport à notre posture du quotidien. Donc voilà, vous avez quatre manières de travailler la posture du cobra. Il y en a plein d'autres. Et c'est de se dire qu'en fonction de l'intention, donc ce que je vais appeler ici le choix pédagogique, ça va être ce que l'enseignant va choisir de mettre en avant ou encore le pratiquant va choisir de mettre en avant dans sa pratique, et de se dire, ben, par exemple, moi aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de travailler les muscles qui vont me permettre de redresser ma posture, et je vais mettre l'accent sur ces sensations le long de la colonne vertébrale. Et finalement, je vais me servir de la position de la tête, de la position des bras, de la position des jambes pour accentuer le travail le long de cette colonne vertébrale. Et par conséquent, le placement du corps et des différents segments du corps vont être une façon d'accentuer le travail des muscles érecteurs. Et cela va peut-être dépendre d'une personne à une autre. Si vous avez des problèmes de cervicale, vous allez peut-être vous servir plus de votre dos, et vos bras, vous allez peut-être les laisser plutôt le long du corps au lieu de les emmener au-dessus de la tête, parce que vous allez peut-être sentir qu'en emmenant les bras au-dessus de la tête, ça va vous faire mal au cervical. Et vous allez par conséquent choisir quelle est la meilleure position des différentes parties du corps pour accentuer les muscles le long de la colonne vertébrale. Si maintenant vous cherchez à accentuer la respiration diaphragmatique en utilisant le massage viscéral et la compression du ventre sur le sol, eh bien peut-être vous n'avez pas besoin de monter très haut votre buste et vos jambes pour ressentir cette compression. Peut-être que le fait de soulever un tout petit peu, ça va suffire. Et vous n'êtes pas obligé d'aller dans une posture complète, dans une posture pleine, pour arriver à ressentir ce qui se passe au niveau de votre ventre et faciliter la circulation. Donc le choix pédagogique, c'est-à-dire mettre l'accent sur une intention bien spécifique dans la posture, ça va permettre ensuite de choisir quel est l'alignement, quels sont les différents segments du corps qui vont me permettre d'aller dans cette posture. Et ensuite, on pourrait parler d'un troisième point, serait est-ce que je sens ce que je recherche ? Si vous restez par exemple dans cette idée de travailler, d'activer tous les muscles le long de la colonne vertébrale, si au bout de 5-6 respirations, vous commencez à sentir vos muscles le long de la colonne vertébrale et que les muscles commencent un peu à fatiguer, vous avez peut-être une sensation de brûlure le long de la colonne, de brûlure dans le sens muscle qui travaille, hein, pas dans le sens la peau qui chauffe, eh bien vous allez vous dire, oui, ça y est, je suis rentrée dans la posture. Et c'est exactement ça, c'est de se dire, est-ce que je sens ce que je cherche ou est-ce que c'est pas du tout ça et je suis obligée de changer ma façon de faire pour arriver à retrouver mon intention qui est de travailler les muscles ou d'activer les muscles le long de la colonne vertébrale. Et par conséquent, quand on se dit est-ce que je sens ce que je suis en train de faire et est-ce que c'est bien au bon endroit, eh bien, il n'y aura plus de notion de bonne ou de mauvaise posture. Bonne ou mauvaise posture dans le sens est-ce que je me suis bien installée ou mal installée avec des règles d'esthétique, mais plutôt est-ce que l'installation que j'ai choisie me permet d'atteindre ce que je cherche à faire, activer les muscles de la colonne vertébrale encore une fois dans cette posture. Et parfois, moi, j'ai des élèves qui viennent me voir ou qui me posent la question, est-ce que je suis bien placée ? Eh bien, j'ai du mal à leur répondre finalement, est-ce qu'ils sont bien placés ? Par contre, on peut discuter ensemble, est-ce que dans cette posture, il y a bien cette sensation de travail de muscles le long de la colonne vertébrale ? Certains vont me dire oui, mais par exemple, dans la posture du cobra, ben, ce que je sens essentiellement, c'est mon bassin sur le sol et ça fait extrêmement mal au niveau du bassin. Dans ces cas-là, si on place quelque chose de moelleux comme une couverture, est-ce que ça va permettre de diminuer cette sensation-là ? Est-ce que si on place une couverture sous les cuisses et sous le ventre, mais sans placer de couverture sous le bassin, ça permet de placer les appuis différemment sur le sol ? Donc les appuis sont sous les cuisses et sous le ventre et rien du tout au niveau du bassin, ça permet de prendre la posture sans avoir mal à ces os du bassin pour pouvoir ressentir la colonne vertébrale. Et on va travailler comme ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture, mais est-ce que la posture que l'on a choisie avec l'installation permet d'aller plus loin dans la pause tout simplement et atteindre ce que l'on cherche à faire, comme par exemple, encore une fois, je vais le dire plusieurs fois, l'étirement des muscles le long de la colonne vertébrale. Si je reviens maintenant sur la deuxième posture que je voulais voir, la posture de l'arbre, Vrikshasana, c'est un petit peu, moi j'aime bien cette posture parce qu'elle ressemble à un flamant rose. Et là d'où je viens, dans la région de Montpellier, il y a toute une petite région autour de l'étang de Thaux où il y a beaucoup de flamants roses et j'adore passer en voiture devant et regarder leur façon de se tenir parce que ça me permet aussi vraiment de retrouver cette posture et c'est une grande joie à chaque fois de les voir. Donc ici, Vrikshasana, c'est de placer un pied sur le sol, il va y avoir une posture d'équilibre ainsi. Et la deuxième jambe est genou fléchi, pied posé contre la première cuisse, la jambe qui soutient. Le buste est allongé, tout le corps cherche la verticalité, donc de pousser le pied vers le sol, le puits d'appui vers le sol et de pousser le sommet du crâne vers le plafond. Et ensuite, les bras qui soient positionnés ouverts sur les côtés, joints au-dessus de la tête ou encore mains jointes au niveau du cœur. Pourquoi pas même les mains derrière, derrière le buste, moi c'est ce que je propose de temps en temps à ceux qui ont mal au cervical, c'est de garder les doigts entrelacés en emmenant les épaules, les omoplates vers l'arrière, donc ça permet d'ouvrir aussi la cage thoracique. Et bien, dans cette posture, si on recherche à nouveau les objectifs de la posture, et bien ils sont encore une fois multiples, ça peut être simplement l'équilibre. Donc si on joue avec simplement l'équilibre, on pourrait se dire, bah tiens, on peut s'installer dans la posture, trouver la position confortable et jouer ensuite avec les yeux fermés. Est-ce qu'on maintient cet équilibre ou pas quand on enlève les yeux fermés? Donc si on joue avec l'équilibre, c'est un premier objectif dans la posture. Ça peut être aussi un travail d'allongement de la colonne vertébrale, un travail d'élévation du haut du corps et dans ces cas-là, en plaçant les mains au-dessus de la tête, que les mains soient jointes ou séparées. Hein. On va avoir cette impression de joindre le ciel et la terre, de pouvoir pousser encore plus le pied sur le sol et de lever les bras vers le plafond. Et par conséquent, ici, oui, d'avoir les bras vers le plafond, ça va nous aider à aller dans la posture si c'est l'intention pédagogique d'allonger. Maintenant, s'il n'y a pas cette sensation d'allonger, peut-être qu'en gardant les mains derrière la base du crâne, ça va faciliter l'équilibre. Donc, quel est finalement l'objectif de la posture? Quel est le choix pédagogique de l'enseignant ou du pratiquant dans cette posture? Et est-ce que les indications que l'on donne vont correspondre à cette demande et à faciliter l'objectif, à faciliter le fait d'atteindre ces bénéfices, ces effets? Et est-ce qu'on se sent, est-ce qu'on ressent la posture? Si on travaille les équilibres et qu'on ferme les yeux, et que là on perd l'équilibre, on va se rendre compte à quel point le travail de la cheville va être important pour stabiliser le pied sur le sol et bien sûr le reste du corps. Si maintenant on arrête de respirer, ça va aussi verrouiller certaines parties du corps et l'équilibre va devenir un peu plus précaire. Si on change la position des bras, par exemple en désaxant les bras, en ayant par exemple un bras vers le plafond et un bras le long du corps, est-ce qu'on maintient aussi cette notion d'équilibre ou pas? Donc c'est de jouer avec les différents segments plutôt que de dire le pied d'appui doit être posé d'une certaine manière, la jambe en flexion, elle doit être installée d'une certaine manière et les bras d'une autre. Et du coup, vous avez toute la classe qui finalement a la même forme, mais peut-être que les expérimentations ne vont pas être les mêmes. J'espère être un peu claire, j'ai l'impression de partir dans tous les sens. Donc j'espère être claire dans ce que je raconte aujourd'hui. Donc maintenant, on peut aussi, pour chaque posture, se dire est-ce qu'on emmène des modifications? Et les modifications, elles sont là pour plusieurs choses. Les modifications, elles sont là pour faciliter les effets, les bénéfices, ou encore pour faciliter l'équilibre si on revient dans Vrikshasana. Et les variations, elles sont là aussi pour faciliter la prise de la posture, parce qu'il y a certaines postures qui, par exemple, sont beaucoup plus difficiles, ou en tout cas, elles demandent un challenge beaucoup plus important. Donc, pour une personne qui a des difficultés d'équilibre, que ce soit à cause des yeux, à cause des oreilles, de l'oreille interne, d'une cheville qui est blessée ou tout simplement d'un moyen fessier aussi qui n'est pas suffisamment solide pour maintenir un équilibre sur une jambe, eh bien comme variation, ça va être de placer la main sur le mur ou sur une chaise, pouvoir maintenir la posture et se dire que oui, en se servant d'un élément, un accessoire comme le mur ou comme une chaise pour maintenir l'équilibre, eh bien, ça va permettre de travailler. Donc c'est plutôt dans le sens que l'accessoire va nous faciliter la posture, pas dans le sens où on est on est nul ou on a des difficultés à faire la posture, mais dans le sens, je vais pouvoir atteindre ce travail de renforcement de cheville, d'étirement dans la colonne vertébrale, d'allongement dans toute la posture, de pouvoir joindre le ciel et la terre dans Vrikshasana, parce que je me sers du mur et le mur va m'aider à atteindre ces objectifs-là. Parce que si je me sers pas de ce mur, eh bien, je ne tiens pas du tout dans la posture. À chaque fois, j'essaie de lever un tout petit peu la jambe et placer le pied contre la cuisse, eh bien, pouf, tout de suite, l'équilibre se rompt. Donc, est-ce que, en se servant d'un support, eh bien, ça va faciliter la tâche, faciliter la posture, la prise de la posture, pouvoir être dans cette même observation. Est-ce que l'équilibre est quelque chose d'aisé pour moi ou pas? Est-ce que j'ai envie d'y rester? Donc voilà comment on peut jouer avec la pratique du yoga fonctionnel avec plusieurs étapes. Le premier, c'est de fixer un objectif dans la posture. Ils sont multiples, donc on va en choisir un, peut-être deux. Ça correspond aussi au choix pédagogique, celui de l'enseignant et du pratiquant, en disant « moi, je veux mettre l'accent sur telle partie ». C'est de se dire « est-ce que effectivement, quand je me suis installée dans la posture, est-ce que je ressens ce que je cherche ? Si oui, je reste. Sinon, je change ». Quelques aspects de la posture, par exemple les bras, la position des pieds, la position de la tête, pour trouver ce que je recherche, ce que j'ai fixé au départ. Il n'y a pas de notion de bonne ou mauvaise posture, mais de posture qui facilite l'accès aux bénéfices ou pas. Il y a toutes les modifications donc, qui permettent de changer un petit peu l'état de la posture pour aller vers l'objectif ou pas. Et la dernière étape dont je n'ai pas encore beaucoup parlé, c'est qu'est-ce qui se passe quand on quitte la posture? Quels sont les bénéfices que l'on ressent quand on quitte la posture? Quand on fait Vrikshasana et que l'on repose les deux pieds, est-ce que quand on pose les deux pieds dans Tadasana, par exemple, les bras le long du corps, les yeux fermés, est-ce que nos appuis sont pareils à droite et à gauche? Est-ce que la posture d'un côté permet de renforcer les appuis sur le sol et se sentir mieux dans sa verticalité? Si oui, l'objectif aussi est atteint. Encore une fois, je parle d'objectif parce que c'est ce qui est le plus commun à tous, que ce soit dans le yoga, dans le travail et tout. C'est peut-être pas encore une fois le meilleur mot parce que objectif dit attendre de résultats, et que le yoga c'est plutôt pratiquer sans attendre de résultats. Mais j'utilise quand même cette idée d'objectif parce que c'est ce qui, encore une fois, est le plus commun à tous. Donc voilà un petit peu comment on peut pratiquer. Je parlais un tout petit peu au départ de choisir une autre posture à la place parce qu'elle est beaucoup plus juste pour son propre corps. Si par exemple, je vais parler de mon exemple, j'ai peu d'amplitude dans la colonne vertébrale, j'ai vite mal au bas du dos quand je cherche à faire des flexions arrière, j'ai atteint déjà une bonne partie de mes limites dues à la danse essentiellement et tout simplement à mes limites. Donc je fais attention à mon bas du dos parce que si je pousse un petit peu trop, eh bien, il y a vite un nerf sciatique qui devient titilleux et je peux même arriver à avoir des difficultés à marcher. Donc je fais extrêmement attention à ça. Donc la posture qui s'appelle Chakrasana, la posture de la roue, en gymnastique on appelle peut-être plus cette posture la posture du pont, donc c'est-à-dire qu'on part de la position allongée sur le dos, les jambes sont fléchies, les pieds posés sur le sol et les mains sont placées de chaque côté des oreilles, en gros, de chaque côté des oreilles, mains posées sur le sol. Et l'idée, c'est à la prochaine inspiration de monter le bassin vers le plafond et de faire un arc avec les pieds sur le sol, les mains sur le sol, le bassin qui va regarder, ou le nombril, c'est plus juste, le nombril qui va regarder vers le plafond, mais on a un arc qui est formé. Donc ça permet d'étirer tous les muscles de l'avant du corps et d'activer vraiment fortement tous les muscles de l'arrière du corps, pouvoir pousser en antigravité et monter le bassin. Mais dans ma pratique à moi, dans ma façon de faire, c'est une posture qui est impossible. C'est la meilleure posture pour me faire mal au bas du dos. Donc, je ne la fais pas du tout. Et quand je fais ma propre pratique, ou parfois quand je suis aussi un cours, eh bien, je vais choisir une autre posture à la place. Tant pis, je prends le temps qu'il faut pour aller m'installer dans une autre posture et je rattrape après mon retard. J'essaie de déranger le moins et quand je pratique moi-même, eh bien, c'est quand même beaucoup plus facile de suivre ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais prendre à la place? Je vais prendre par exemple la posture du chameau. La posture du chameau, elle va avoir un même effet d'étirement de tous les muscles de l'avant du corps, d'activation des muscles de l'arrière du corps pour maintenir la posture. Par contre, la charge face à la gravité va être différente, mais ça me permet de prendre cette même posture, d'avoir les mêmes sensations, d'avoir cette même posture d'arc, avec peut-être moins d'implication dans mon bas du dos, en tout cas plus de facilité à sortir et à entrer et à sortir dans la posture. Je pourrais prendre une troisième posture qui va être Dharunasana, la posture de l'arc. Cette fois-ci, cet arc se fait en étant allongé sur le ventre. En étant allongé sur le ventre, on va chercher à attraper ses pieds. Et ensuite, une fois qu'on a attrapé ses pieds, on va essayer de suspendre le haut du buste et de suspendre les cuisses du sol. Donc on aura un appui sur une partie du bassin, parfois une partie du ventre. Donc ça dépend vraiment de chaque personne, ça dépend de l'amplitude que l'on a dans la colonne vertébrale. Et c'est une autre manière aussi de faire ce même arc, mais avec une orientation qui va être différente. Donc c'est pour ça qu'en début de pratique, je disais, on peut choisir une autre posture à la place qui va avoir les mêmes bénéfices, les mêmes effets, ou quasiment les mêmes, parce qu'encore une fois, là sur les trois exemples que je vous ai donnés, même si on a un arc avec un travail qui va être similaire à l'avant et à l'arrière du corps en termes d'étirement et d'activation, la réaction face à la gravité, en tout cas les mouvements antigravitaires vont être différents et ça va donner peut-être des impressions qui vont être différentes ou encore, on ne va pas ressentir la posture au même endroit. Peut-être que dans la posture chakrasana, donc le pont ou la roue, on va peut-être plus le sentir dans le bas du dos. Quand on va faire le chameau, on va peut-être plus le sentir au niveau de la poitrine. Quand on va faire Dharunasana, on va peut-être la posture de l'arc, pardon, on va peut-être plus le sentir au niveau des cuisses. Donc ça va varier un petit peu d'une personne à une autre. Et surtout, c'est de se dire que ben, je ne peux pas faire la posture chakrasana, la posture de la roue, encore une fois du pont, parce que j'ai un dos fragile, mais je peux continuer à pratiquer au sein d'un groupe en choisissant une autre posture qui va être de la même catégorie et qui me permettra de suivre le cours et de me sentir inclus dans la pratique et pas de me dire « Ah ben non, je ne peux pas faire cette posture. » Eh bien, je vais attendre qu'il la finisse avant de retrouver le reste du groupe. Ce qui est vraiment, vraiment pas très agréable d'avoir l'impression d'être à côté de la plaque ou de se sentir nul parce qu'on n'arrive pas à faire une posture. Donc quand on travaille avec le yoga fonctionnel et qu'on améliore sa compréhension des postures, quand on commence à catégoriser les postures par leurs bénéfices et leurs avantages, eh bien on va pouvoir choisir une posture à la place d'une autre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé dans le travail d'André Van Lisbeth, donc vous le retrouvez hein, dans plusieurs de ses livres, qui est que quand vous n'arrivez pas à faire une posture, pour une raison ou une autre, vous pouvez choisir une autre posture à la place. Plutôt que de dire j'attends que le groupe y continue, ben, j'essaie de faire une autre posture à la place qui va être équivalente. Et c'est génial parce que non seulement ça permet de gagner en autonomie, ça permet de respecter son propre corps parce qu'on va faire des postures qui correspondent à son corps plutôt que de faire des postures qui ne correspondent pas et on se fait mal. Et ça permet aussi d'avoir après suffisamment de confiance pour pouvoir pratiquer seul. Donc voilà pour une première explication sur le yoga fonctionnel. J'espère avoir été suffisamment claire pour vous donner des idées pour essayer, pour expérimenter, pour comprendre ce qu'est le yoga fonctionnel et aussi comment apprendre à se détacher finalement d'une pratique où l'esthétique, la position des bras, la position des pieds a plus d'importance que le reste. Et parfois on se sent un petit peu laissé pour compte parce que en répondant à ces exigences de placement du corps, eh bien on n'arrive pas à prendre la posture, ce qui arrive finalement à beaucoup d'élèves. Moi, dans mes cours, j'ai plutôt des élèves qui me ressemblent, c'est-à-dire avec peu d'amplitude et qui ont des difficultés à prendre des postures que j'appelle Instagrammables parce qu'elles sont très esthétisantes, très sexy, mais pas forcément accessibles pour tous. Et on a parfois l'impression de se sentir un petit peu nul ou un petit peu laissé pour compte parce qu'on n'arrive pas à faire la posture. Donc là, l'idée, c'est vraiment que chacun puisse pratiquer au sein d'un groupe en ayant une posture ou une pratique ou un ensemble de postures qui permet de se sentir bien dans un cours. Voilà pour aujourd'hui, j'espère vous retrouver bientôt. N'hésitez pas à partager cet épisode si il vous a plu et si vous souhaitez en faire profiter d'autres personnes autour de vous. Et pensez aussi à vous abonner pour recevoir les notifications et écouter les prochains épisodes. Je vous dis à mardi prochain et à très bientôt. Au revoir.